Il flottait dans l'air à Washington, avant que je sois élu et durant ma présidence, la nostalgie d'une époque de coopération transpartisane au Capitole. Et il était vrai que, pendant la majeure partie de la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, les lignes séparant les deux partis politiques en Amérique avaient réellement été plus fluides. Dans les années 1950, la plupart des républicains s'étaient accommodés des réglementations en matière de santé et de sécurité datant du New Deal, et le Nord-Est et le Midwest avaient produit des dizaines et des dizaines de républicains plutôt modérés sur les questions de la protection de l'environnement et des droits civiques. Les États du Sud constituaient alors un des piliers les plus solides du Parti démocrate, combinant un conservatisme culturel profondément enraciné et un refus catégorique de reconnaître les droits des Afro-Américains, lesquels formaient une part importante de leur électorat. La domination économique de l'Amérique étant indiscutable, sa politique étrangère définie par la peur du communisme ayant un effet unificateur, et sa politique sociale marquée par une confiance bipartite dans le fait que les femmes et les personnes de couleur savaient rester à leur place, les démocrates et les républicains se sentaient libres de franchir les lignes des partis en cas de nécessité pour faire passer une loi. Ils observaient les courtoisies d'usage lorsqu'il s'agissait de proposer des amendements et de soumettre des candidatures au vote, et les attaques partisanes et les tactiques agressives restaient dans les limites du tolérable. L'histoire de la rupture de ce consensus d'après-guerre a déjà été racontée maintes fois, en commençant par Lyndon B. Johnson signant la loi sur les droits civiques en 1964 et sa prédiction que cela conduirait le Sud à déserter en masse le Parti démocrate. La prévision de Johnson mit plus de temps à se réaliser qu'il ne l'avait imaginé. Mais régulièrement, au fil des ans, par le Vietnam, les émeutes, le féminisme et la stratégie du Sud de Nixon, par la politique de Busing vivant à renforcer la mixité raciale à l'école, l'arrêt Roe vs. Wade protégeant le droit des femmes à avorter, la criminalité urbaine et la désertion des centres-villes par les blancs aisés, par la discrimination positive, le mouvement conservateur de la majorité morale, la répression antisyndicale et l'opposition à la loi sur les droits civiques incarnée par le juge Robert Bork, par l'interdiction des armes d'assaut et la montée de Newt Gingrich, les droits des homosexuels et la procédure d'impeachment visant Clinton, les électeurs américains et leurs représentants se sont de plus en plus polarisés. Le charcutage électoral a renforcé ces tendances, tandis que les deux partis, avec l'aide du profilage des électeurs et de la technologie informatique, redessinaient des circonscriptions dans le but explicite de consolider des mandats et de minimiser le nombre de circonscriptions susceptibles de basculer dans le camp adverse lors des différentes élections. Dans le même temps, la fragmentation des médias et l'émergence de médias conservateurs ont eu pour conséquence que les électeurs ne se reposaient plus sur le seul présentateur télé Walter Cronkite pour se faire une opinion. Au lieu de cela, ils pouvaient se référer à des sources qui les confortaient dans leurs préférences politiques sans les remettre en question. Lorsque je suis entré en fonction, ce grand tri entre les rouges et les bleus, entre les républicains et les démocrates, était pratiquement achevé. Il restait encore quelques sénateurs dont la position n'était pas systématiquement tranchée d'avance, une douzaine de républicains modérés à progressistes et des démocrates conservateurs ouverts à la collaboration. Mais la plupart se cramponnaient coûte que coûte à leur siège. À la Chambre, les vagues bleues de 2006 et 2008 avaient installé une douzaine de démocrates conservateurs venant de circonscriptions traditionnellement républicaines. Mais dans l'ensemble, les démocrates de la Chambre étaient de tendance progressiste, en particulier sur les questions sociales, et les démocrates du Sud constituaient une espèce en voie de disparition. Le glissement parmi les républicains de la Chambre était encore plus marqué. Purgés d'à peu près tous les modérés qui restaient, leur groupe penchait plus à droite que jamais dans l'histoire moderne, les conservateurs à l'ancienne étant à la manœuvre pour gagner de l'influence auprès de l'espèce nouvellement enhardie des disciples de Newt Gingrich, des provocateurs à la Rush Limbaugh, des clones de Sarah Palin et de l'auteur Ayn Rand, tous refusant le compromis, sceptiques vis-à-vis de toute action du gouvernement n'impliquant pas la défense, la sécurité à la frontière, les forces de l'ordre ou la condamnation de l'avortement, et semblant sincèrement convaincu que les progressistes avaient vocation à détruire l'Amérique. Rien de tout cela ne nous empêcherait nécessairement de faire passer notre plan de relance, du moins sur le papier. Après tout, les démocrates avaient une majorité de 57 sièges à la Chambre et de 17 au Sénat. Mais même dans les meilleures circonstances, essayer de faire adopter au Congrès une loi décrétant les plus grandes dépenses d'urgence en un temps record serait un peu comme faire avaler une vache à un piton. Il a fallu aussi que j'affronte l'obstruction parlementaire au Sénat, une sorte d'aberration de procédure institutionnalisée, qui finirait par devenir la pire difficulté de ma présidence. Le filibuster, ou obstruction systématique, n'est nulle part mentionné dans la Constitution. Il se trouve que cette pratique a vu le jour par hasard. En 1805, le vice-président Aaron Burr demanda que soit supprimée une clause parlementaire courante qui permettait à la majorité simple de toute législature de mettre fin à un débat sur une question et d'appeler au vote sur la question concernée. Burr, qui avait manifestement pris l'habitude de ne jamais réfléchir aux choses sous tous leurs angles, aurait, semble-t-il, considéré que cette règle était une perte de temps. Les sénateurs n'ont pas tardé à se rendre compte que, sans moyen formel de clore un débat, n'importe lequel d'entre eux pouvait paralyser le Sénat et du même coup obtenir toutes sortes de concessions de la part de collègues frustrés, en se contentant de parler sans fin, refusant de rendre la parole. En 1917, le Sénat a limité cette pratique en adoptant la règle de clôture, qui stipule qu'un vote des deux tiers des sénateurs présents peut mettre fin au débat. Durant les 50 années qui ont suivi, cette forme d'obstruction parlementaire n'a été utilisée qu'avec parcimonie, notamment par des démocrates du Sud tentant de bloquer la promulgation des lois anti-lynchage et pour l'égalité des salaires, ainsi que d'autres textes qui menaçaient d'ébranler les lois Jim Crow. Petit à petit, cependant, l'obstruction parlementaire est redevenue routinière et facile à mobiliser, en faisant une arme puissante, un moyen pour le parti minoritaire de parvenir à ses fins. La simple menace d'un filibuster suffisait souvent à faire avorter une loi. Dans les années 1990, quand les lignes entre républicains et démocrates se sont durcies, le parti dans l'opposition, quel qu'il soit, pouvait bloquer, et bloquait, toute loi qui ne lui convenait pas. Il suffisait pour cela de rester unis, afin de disposer des 41 voix nécessaires pour que l'obstruction ne puisse pas être annulée. Sans base constitutionnelle ni débat public, sans même que la plupart des Américains en soient informés, pour qu'une loi soit votée par le Sénat, il fallait de fait disposer de 60 voix, ce que l'on désignait souvent par le terme de « supermajorité ». À l'époque où je suis devenu président, le filibuster était à ce point entré dans les pratiques du Sénat, considéré comme une tradition importante et respectée, que personne n'envisageait ne serait-ce que la possibilité de l'amender, sans parler de le supprimer. Voilà pourquoi, alors que je venais de remporter une élection avec une marge écrasante et que j'avais le soutien de la plus forte majorité parlementaire depuis de nombreuses années, je n'étais pas en mesure de rebaptiser un bureau de poste et encore moins de faire passer notre plan de relance sans devoir partir à la conquête de quelques votes républicains. Cela ne pouvait tout de même pas être si difficile, si ? Un projet d'envergure émanant de la Maison-Blanche peut nécessiter des mois de préparation. Il faut des dizaines de réunions, impliquant de multiples agences et potentiellement des centaines de collaborateurs. Des consultations exhaustives sont menées avec les parties intéressées. L'équipe de la communication de la Maison-Blanche est chargée de chorégraphier une campagne rigoureusement gérée afin de convaincre le grand public. Et les rouages de toute la branche exécutive sont mobilisés pour gagner à la cause les présidents et vice-présidents de commissions parlementaires. Tout cela a lieu bien avant que la loi soit rédigée et examinée. Nous n'avions pas le temps pour tout ça. Alors, avant même que je prenne mes fonctions, mon équipe économique encore officieuse et largement sous-payée a travaillé sans relâche pour donner corps à ce qui deviendrait le Recovery Act, ou loi sur le redressement et le réinvestissement aux États-Unis. Apparemment, le terme initial de Stimulus Package risquait de ne pas bien passer auprès de la population. Nous avons proposé de répartir près de 800 milliards de dollars en trois enveloppes. Dans la première enveloppe, les paiements d'urgence pour les allocations chômage supplémentaires et les aides directes aux États afin d'endiguer les licenciements massifs d'enseignants, de policiers et autres fonctionnaires. Dans la deuxième enveloppe, des réductions d'impôts concernant la classe moyenne ainsi que divers avantages fiscaux qui constitueraient pour les entreprises de fortes incitations à investir immédiatement dans de nouvelles usines ou dans des équipements. Les paiements d'urgence et les réductions d'impôts étaient deux types de mesures présentant l'avantage d'être faciles à mettre en place. Nous pourrions aisément générer de l'argent qui irait dans les poches des particuliers et des entreprises. Les avantages fiscaux revêtaient aussi l'intérêt supplémentaire d'attirer potentiellement un soutien républicain. La troisième enveloppe, en revanche, rassemblait des initiatives plus difficiles à concevoir et dont la mise en œuvre serait plus longue, mais dont l'impact à terme serait sans doute plus important. Non seulement les traditionnelles dépenses en infrastructures, comme la construction de routes et l'entretien des égouts, mais aussi le train à grande vitesse, le développement des énergies solaires et éoliennes, le déploiement de connexions Internet à haut débit dans les régions rurales mal desservies, et les mesures d'incitation pour que les États reforment leur système d'enseignement, le tout avec pour objectif non seulement de mettre les gens au travail, mais aussi de rendre l'Amérique plus compétitive. Compte tenu des nombreux besoins non satisfaits au sein des communautés dans tout le pays, j'ai été étonné de voir tous les efforts que notre équipe a dû déployer avant de trouver des projets ayant suffisamment d'ampleur pour répondre aux critères de financement via le Recovery Act. Certaines idées prometteuses ont été rejetées parce qu'elles demandaient trop de temps pour être mises en œuvre ou parce que leur gestion supposerait une nouvelle bureaucratie énorme. D'autres n'ont pas été retenues parce qu'elles ne relanceraient pas suffisamment la demande. Conscient des accusations qui allaient bon train, prétendant que j'avais l'intention de prendre la crise comme prétexte pour créer pléthore d'emplois bidons, peu rentables et de gauche, et parce que de fait je voulais éviter au Congrès de s'engager dans la création d'emplois bidons et peu rentables, qu'ils soient de gauche ou non, nous avons mis en place une série de procédures de contrôle. Un processus concurrentiel d'inscription pour les États et les collectivités locales désireuses de faire une demande de financement. Des exigences rigoureuses de vérification des comptes et de bilan d'activité. Et, ce qui, nous le savions, déclencherait des cris d'orfraie au Capitole, une politique ferme de refus des fonds réservés. Terminologie inoffensive, désignant la vieille pratique parlementaire consistant à faire financer divers projets locaux, certains tout à fait discutables, tenant à cœur à certains élus en même temps qu'une loi qu'il faut faire passer à tout prix. Il nous appartenait de faire preuve de droiture et d'exemplarité, ai-je dit à mes collaborateurs. Avec un peu de chance, le Recovery Act ne contribuerait pas seulement à éviter une crise. Il servirait aussi à restaurer la confiance du grand public dans un gouvernement honnête et responsable. Le premier de l'an, l'essentiel de notre travail initial était achevé. Armé de notre proposition, et sachant que nous disposions d'un calendrier inhabituellement serré, Joe Biden et moi nous sommes rendus au Capitole le 5 janvier. Deux semaines avant mon investiture, pour rencontrer le chef de file de la majorité au Sénat, Harry Reid, celui de l'opposition au Sénat, Mitch McConnell, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le chef de file de l'opposition à la Chambre, John Boehner, et les autres personnalités de poids dans le 111e Congrès nouvellement en place, dont le soutien nous était nécessaire pour l'adoption d'une loi. Des quatre, c'était Harry que je connaissais le mieux. Mais j'avais déjà eu de nombreuses interactions avec McConnell au cours de mes quelques années au Sénat. Petit, avec une apparence solennelle de hibou et une douce voix de baryton du Kentucky, McConnell faisait un improbable chef de file républicain. Il n'avait pas l'air particulièrement doué pour le relationnel, les tapes dans le dos ou l'art oratoire. Personne apparemment ne lui connaissait d'amis proches, y compris dans son camp. Il ne semblait pas non plus animé de fortes convictions, hormis un antagonisme viscéral vis-à-vis de toute réforme en matière de financement de campagne. Joe m'avait parlé d'une prise de bec qu'il avait eue avec lui au Sénat, après que le chef de file républicain s'était opposé à un projet de loi que Joe parrainait. Quand ce dernier avait entrepris d'expliquer les mérites de son texte, McConnell avait levé la main à la manière d'un agent de police en déclarant « Vous semblez commettre l'erreur de croire que j'en ai quelque chose à faire ». Mais ce qui faisait défaut à McConnell en termes de charisme et d'intérêt pour les grands enjeux, il le compensait plus que largement par sa discipline, sa perspicacité et son impudence. Autant de traits de personnalité qu'il mettait à profit dans sa quête monomaniaque et implacable du pouvoir. Harry ne le supportait pas. Boehner était un animal d'un autre genre, affable, la voix rocailleuse, fils d'un barman de la région de Cincinnati. Entre les cigarettes qu'il fumait à la chaîne et son bronzage perpétuel, son amour pour le golf et le bon merlot, j'avais l'impression de le connaître. Il me semblait être taillé dans la même étoffe que nombre de républicains que j'avais été amené à fréquenter du temps où j'étais au Sénat de l'Illinois, à Springfield. Des types réglos ne s'écartant pas de la ligne du parti ou des lobbyistes qui les maintenaient au pouvoir, mais qui ne considéraient pas non plus la politique comme un jeu sanguinaire et étaient même prêts à travailler avec vous si cela ne leur coûtait pas trop politiquement. Malheureusement, ces mêmes qualités humaines ne donnaient à Boehner qu'une emprise ténue sur les élus de son camp. Et ayant vécu l'humiliation d'être privé de son poste de président du groupe républicain à la Chambre pour n'avoir pas suffisamment fait allégeance à Newt Gingrich à la fin des années 1990, il déviait rarement des éléments de langage que ses collaborateurs avaient préparés pour lui, du moins en public. À la différence de la relation entre Harry et McConnell, il n'existait pas de véritable inimitié entre la présidente Nancy Pelosi et Boehner, uniquement une frustration de part et d'autre. Chez Nancy, en raison du manque de fiabilité de Boehner en tant que négociateur et de sa fréquente incapacité à obtenir les votes, chez Boehner parce que Nancy le dominait le plus souvent en manœuvrant plus habilement. Boehner n'était pas le premier à se casser les dents face à la présidente de la Chambre des représentants. En apparence, avec ses tailleurs chics, ses chaussures assorties et sa coiffure impeccable, Nancy ressemblait parfaitement à la progressiste aisée de San Francisco qu'elle était. Elle avait beau savoir parler à toute vitesse, elle n'était pas particulièrement bonne à la télé à l'époque, ayant tendance à asséner des panacées démocrates avec un sérieux éprouvé qui n'était pas sans faire penser au ton d'un discours donné à la fin du dîner d'un gala de bienfaisance. Mais les politiciens, habituellement les hommes, sous-estimaient Nancy à leurs risques et périls, car son ascension n'avait rien d'un coup de veine. Elle avait grandi sur la côte Est, fille italo-américaine du maire de Baltimore, et avait été au contact, dès son plus jeune âge, des méthodes employées par les dockers et les caciques des communautés d'immigrés. En politique, elle n'avait pas peur de passer en force au nom de la nécessité de faire avancer les choses. Après s'être installée sur la côte Ouest avec son mari, Paul, et être restée à la maison pour élever leurs 5 enfants pendant qu'ils réussissaient dans les affaires, Nancy a fini par faire bon usage de son éducation politique acquise toute jeune, gravissant les échelons au sein du Parti démocrate de Californie et au Congrès pour devenir la première femme de l'histoire américaine présidente de la Chambre des représentants. Elle se fichait que les républicains fassent d'elle leur cible préférée. Les jérémiades ponctuelles de ses collègues démocrates ne la perturbaient pas davantage. Le fait est qu'il n'y avait pas de stratège législatif plus coriace et plus habile qu'elle, et elle tenait son groupe parlementaire grâce à une combinaison de prévenance, de panache lorsqu'il s'agissait de collecter des fonds, et de sévères réprimandes à l'égard de quiconque ne respectait pas ses engagements. Harry, Mitch, Nancy et John. The Four Tops, les appelait-on parfois. Au cours des 8 années à venir, la dynamique entre ces 4-là aurait un impact décisif sur ma présidence. Je me suis accoutumé au côté ritualisé de nos réunions, à leur manière d'entrer dans la salle l'un derrière l'autre, chacun offrant une poignée de main et l'esquisse d'un salut. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Une fois que nous avions tous pris place, Joe et moi, et parfois Nancy, hasardions une plaisanterie légère, nous estimant heureux si nous obtenions en retour un sourire tiède de la part des 3 autres, pendant que mon staff faisait entrer l'équipe de journalistes pour l'inévitable séance photo. Une fois que les journalistes avaient été reconduits hors de la salle et que nous nous attelions aux choses sérieuses, ils mettaient tous les 4 un point d'honneur à ne rien laisser transparaître de leurs intentions ni à s'engager fermement sur quoi que ce soit, leurs commentaires étant souvent émaillés de récriminations à peine voilées à l'encontre de leurs homologues, tous unis seulement par une même envie d'être ailleurs. Peut-être parce que c'était notre première réunion depuis les élections, peut-être parce que leurs whip et adjoints respectifs étaient avec nous, peut-être en raison de la gravité de la situation, les Four Tops semblaient tous dans d'excellentes dispositions quand nous nous sommes rassemblés en ce jour de début janvier dans l'opulent salon Lyndon B. Johnson, juste à la sortie de la Chambre du Sénat, avec d'autres chefs de file du Congrès. Ils ont écouté avec une attention étudiée ma présentation du Recovery Act. J'ai mentionné que mon équipe s'était déjà rapprochée de leurs collaborateurs pour avoir un retour sur le texte de loi proprement dit et que toutes les suggestions visant à rendre le plan de relance plus efficace étaient les bienvenues. J'ai annoncé que j'espérais rendre visite à leurs groupes parlementaires respectifs juste après l'investiture pour répondre plus amplement aux questions. Mais comme la situation se dégradait rapidement, ai-je précisé, il était essentiel d'agir vite. J'avais besoin que la loi soit sur mon bureau non pas dans 100 jours, mais dans 30. J'ai clos mon intervention en disant que l'histoire nous jugerait tous à l'aune de nos actions en ces temps perturbés et que j'espérais que nous pourrions obtenir une forme de coopération bipartite qui restaurerait la confiance de citoyens anxieux et vulnérables. Compte tenu de ce que je demandais aux chefs de file parlementaires, compresser en 1 mois un processus législatif qui en temps normal aurait pu prendre 1 an, la réaction dans la salle a été pour le moins tiède. Mon ami de longue date, Dick Durbin, le whip du Sénat, a réclamé qu'on augmente la part du plan de relance consacrée aux infrastructures. Jim Clyburn, le whip de la majorité à la Chambre, nous a donné une leçon d'histoire lourde de sous-entendus sur toutes les façons dont le New Deal avait contourné les communautés noires, demandant comment nous comptions procéder pour éviter que la même chose se reproduise dans des endroits comme son État de Caroline du Sud. Le Virginien Eric Cantor, deuxième dans l'ordre protocolaire du camp républicain à la Chambre des représentants et l'un des jeunes conservateurs réformistes qui ambitionnait de prendre la place de Boehner, s'est réjoui des propositions de réduction d'impôts que nous avions intégrées au projet, mais a demandé si une réduction plus importante et permanente ne serait pas plus efficace que des dépenses dans le cadre de programmes progressistes voués à l'échec tels que les distributions de coupons d'alimentation. Mais ce sont toutefois les commentaires de Harry, Mitch, Nancy et John, prononcés poliment, les dents serrées, nécessitant un petit travail de décryptage, qui nous ont fourni, à Joe et à moi, une idée de la situation dans laquelle nous nous trouvions réellement. « Monsieur le président élu, a dit Nancy, je pense que le peuple américain comprend très clairement que vous avez hérité d'une pagaille épouvantable. » absolument épouvantable. Et bien entendu, nous autres démocrates sommes prêts à agir de manière responsable pour mettre de l'ordre dans la pagaille épouvantable dont vous avez hérité. J'espère simplement que nos amis de l'autre camp se souviendront que ce sont les démocrates, vous compris, monsieur le président élu, qui ont pris leurs responsabilités. Malgré ce qui était, nous le savons tous, une politique néfaste, ce sont les démocrates qui ont accepté d'aider le président Bush avec le TARP. J'espère que nos amis républicains sauront faire preuve d'une même approche responsable dans ce qui est, comme vous l'avez dit, un moment critique. Traduction. N'allez pas croire un seul instant que nous ne rappellerons pas au peuple américain, chaque fois que nous en aurons l'occasion, que ce sont les républicains qui sont à l'origine de la crise financière. « Ça ne va pas plaire à notre camp », a dit Harry. « Mais nous n'avons pas vraiment le choix, alors il va falloir y aller, d'accord ?» Traduction. Ne vous attendez pas à ce que Mitch McConnell lève le petit doigt pour vous aider. Eh bien, nous vous écouterons avec intérêt, mais sauf votre respect, je ne crois pas que le peuple américain envisage davantage de grosses dépenses et d'autres sauvetages, a dit Boehner. Les gens se serrent la ceinture et ils espèrent que nous ferons de même. Traduction. Mon groupe parlementaire va me crucifier si je dis quoi que ce soit qui laisserait à penser que je suis coopératif. Je ne peux pas dire qu'il y ait un grand engouement pour ce que vous nous proposez, monsieur le président élu, a dit McConnell, mais vous êtes le bienvenu à notre déjeuner hebdomadaire pour plaider votre cause. Traduction. Vous semblez commettre l'erreur de croire que j'en ai quelque chose à faire. En descendant les escaliers, une fois la réunion terminée, je me suis tourné vers Joe. Bon, ça aurait pu être pire, ai-je dit. Ouais, a répondu Joe. On n'en est pas venu au point. Tu vois, ai-je dit en riant, on a avancé.